va continuer dans les Colossiens. Comme je vous l'ai dit, les prochains partages que je donnerai, on va parcourir l'Épître aux Colossiens. Puis la dernière fois, vous rappelez, j'avais dit, on va parcourir l'Épître aux... Au vers soisien, bien vu. Voilà, exactement. Voilà. Alors, on va continuer, et puis, on va rester, en fait, dans Colossiens 1. Et on va reprendre les versets que je vous ai encouragés à méditer cette semaine. Et on va regarder ce qu'il en est, ce qui ressort. Et le titre du partage d'aujourd'hui, c'est « Rendez grâce ». Alors, c'était bien conduit pour ce matin, la louange, ou c'était que ça, reconnaissance, dire merci, merci Seigneur. Merci. À toi aussi. Ah ouais, ouais. Colossiens 1, verset 12. Ça commence direct. « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Je lisais ce passage, je me suis dit, on va méditer, on va regarder là-dessus, et je n'ai pas pu terminer la phrase, comme je viens de vous la lire, c'est ce « rendez grâce » qui est ressorti du texte. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses? Tu lis et tout d'un coup, les mots deviennent plus gras, ils viennent vivants. Hein. « Rendez grâce ». Alors, on veut juste voir un peu ce que c'est que se rendre grâce. Simplement apprendre à dire merci. On peut rester là, on va continuer un petit peu, mais c'est tellement facile qu'on l'oublie tellement souvent. Et j'ai bien aimé la parole que tu as donnée tout à l'heure, quand tu as dit, le chemin que Jésus nous offre n'est pas une autoroute. Et c'est vrai qu'il y a ses embûches, mais lève la tête et mets le pied par-dessus et je te prends avec. Et quelque part, c'est un peu ça. Des fois, nos merci s'envolent parce qu'on est bloqué par le caillou qui est devant nous. Par exemple, reconnaître que ce que Dieu est en train de faire, et puis de savoir, parce que des fois on le sait, ce qu'il va faire. Oser le remercier, reconnaître que tout ce que nous avons, nous ne méritons rien. Alors vous allez me dire, si je travaille comme un fou, à la fin du mois, mon salaire, c'est mérité. On est d'accord, mais la place de travail que nous avons, par exemple, c'est pure grâce, on voit ceux qui cherchent. Donc tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et donc pour toutes ces choses, nous pouvons le remercier. Réaliser ce cadeau, réaliser qu'il nous conduit, réaliser en fait pour la bonne grâce. Rendez grâce à Dieu, c'est remercier pour ce qui est bon. Et la grâce est quelque chose d'excellente. Ce cadeau non mérité, non, que Dieu nous donne. Rendre grâce, ça veut aussi dire attribuer à quelqu'un ce qui est d'une action favorable. C'est un peu compliqué. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Vous vous rappelez où Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il y a donc quelque part une action qui se fait dans le fait de rendre gloire. C'est comme si on ne rendait pas, on privait l'action de quelque chose. On le voit... Quand j'étais au Cameroun et que je regardais les maisons, s'ils n'avaient plus leur salaire, la maison elle était plus construite. C'était assez simple. Quelque part, tu peux faire une action, mais s'il te manque une ressource, s'il te manque quelque chose, tout d'un coup, ça devient difficile. Et le rendre grâce va un petit peu dans ce sens-là. Alors, nous recevons tout, et Dieu n'attend quelque part rien en retour, mais il est digne de louange, il est digne d'adoration. Et c'est comme si nous, on le privait. C'est comme si on ne reconnaissait pas son action de ne pas rendre grâce. Lui attribuer tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable et parfait, nous dit Romains 12, verset 2. Reconnaître ce qui vient de lui et le lui dire. Lui rendre la gloire de son action. Et c'est vrai que des fois, nous avons réussi quelque chose et nous sommes fiers. Et on a raison. N'oublions pas les dons et les talents que Dieu nous a donnés, la force, l'encouragement, le parcours par lequel nous avons été, les études, la capacité que nous avons eue d'apprendre. Là encore, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Alors, sois fier de ton travail, c'est réjouissant. Tu as raison. Mais remercie Dieu pour ses grâces qui nous permettent d'avancer. Rendre grâce, c'est aussi la notion de dédommager. Sans le merci, c'est comme je l'ai dit avant, mais c'est une autre manière de voir. Tu as fait, alors... C'est pas un troc qu'on comprenne. C'est difficile de faire ressortir vraiment rendre grâce, mais c'est pas un troc ou un échange. Dieu a donné. Quelque part, c'est lui qui s'est privé pour nous. Je sais pas si vous comprenez. Alors, dédommagement va aussi un peu dans dans ce sens-là. Rendre grâce, remercier, témoigner sa reconnaissance. Dans le verset 12 que nous venons de lire, il y a la notion de vivre une action de manière concrète, dans le maintenant, d'une manière active. Pas juste une pensée. J'ai vécu un moment, puis c'était bien. Merci Seigneur, excellent. Mais ça va plus loin, rendre grâce. Non seulement une pensée, mais plusieurs. Non seulement une action, mais plusieurs. Dans nos traductions, la plupart d'entre vous, j'ai regardé, même en anglais. Non, pas en anglais, je ne veux pas dire bêtises. Dans nos traductions en français, j'en ai lu plusieurs, tous c'est « rendez grâce » avec un « s » au pluriel. C'est pas juste un « merci ». C'est une réjouissance pour toute chose, et pas seulement une réjouissance. Mais des fois, vous avez été content que vous avez reçu quelque chose, en tout cas, moi, c'est déjà arrivé, et on n'a pas envie de s'arrêter à un merci, on a envie de remercier encore et encore, et on a envie des fois, peut-être ça vous est arrivé pour certaines choses, de sauter, de danser. Ça, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas juste « merci, c'était sympa ». Plein de merci, une explosion, un bouquet de fleurs de merci. Et pas seulement dans les pensées, mais dans l'expression, dans le témoignage vécu. Le mot grec qui surprend, c'est « eucharistéo ». Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, « eucharistéo » ? L'eucharistie. Et en fait, « eucharistéo », c'est le mot pour rendre grâce, pour être reconnaissant, pour témoigner sa reconnaissance, comme je l'ai cité. C'est ce mot-là, « eucharistéo ». C'est le vivre face à quelqu'un. Dans ce mot, il y a la notion du partage. Du témoignage. Et en fait, bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est de là que découle le mot Eucharistie, qui signifie simplement plat, action de grâce, action de reconnaissance. Donc l'Eucharistie, ce que nous appelons Sainte-Cène, en fait, c'est un temps où nous remercions et nous reconnaissons ce que Dieu a fait. Alors, je ne vais pas faire un message sur la Sainte-Cène, mais c'est ça. Faites ceci en mémoire de moi, disait Jésus, chaque fois que vous en prenez. Une action concrète de remerciement de ce que Dieu a fait. C'est un exemple, c'est pour ça que l'on utilise le mot Eucharistie. Et quand on regarde cette notion de témoignage, quand on regarde cette notion d'échange, de dire les choses, pas juste dans les pensées, d'exprimer, quelque part, il y a le fait qu'on est plusieurs à le vivre. Et en même temps, il y a une notion de joie, parce que c'est le remerciement, une reconnaissance, c'est joyeux. Et Dieu, en fait, veut que nous puissions, là on comprend ces versets qui disent « soyez toujours joyeux ». Parce qu'en fait, il y a des quantités de situations dans nos vies dans lesquelles nous pouvons nous arrêter et nous rappeler de la bonté de Dieu. Et j'ai découvert une chose, la bonté de Dieu, le mot « bonté » est un autre mot pour la gloire. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament « gloire de Dieu », dans les racines, vous y trouvez « bonté de Dieu ». Soyons conscients que lorsqu'on prend et que l'on vit ces choses, Dieu, il est dans l'admiration, il vibre dans ses entrailles. C'est pas juste c'est quand que tu me dis merci. Non, c'est l'échange. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Et là, on comprend ces notions de parfum d'adoration que vous avez certainement déjà entendu. Luc 15, les versets 5 à 6, disent ceci. Lorsqu'il l'a retrouvé, sa brebis perdue, c'est deux paraboles que Dieu donne par rapport au royaume de Dieu. Mais ce qui est important là-dedans, c'est cette notion de reconnaissance. Lorsqu'il a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je pense des fois vous avez cherché quelque chose dans l'appart et vous n'êtes pas allé sonner chez le voisin pour lui dire « T'as vu, je l'ai retrouvé. » La suite, Luc 15, les 8 à 9, c'est la même chose. « Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle n'en perd une ?» n'allume une lampe, balaye sa maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Il y a cette notion de chercher. Et pour nous, je vais le prendre dans le sens de « N'oublions pas tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il est en train de faire, et réjouissons-nous pour tout ce qu'il va faire. » Je me rappelle une fois dans un partage, j'avais dit « Mais plus on le fait, plus on commence de croire, plus on se rappelle tout ce que Dieu fait, plus tout d'un coup on réalise dans notre vie que certaines choses deviennent plus facilement possibles, accessibles. Et on sent que Dieu est plus proche. Alors là, elle va et elle partage sa joie. C'est ce eucharistéo, ce rendre grâce dans cette notion de de partage, de dynamique commune, une reconnaissance, un vécu ensemble, un témoignage de joie. Marcher d'une manière digne de Jésus, comme je disais la semaine passée, en désirant l'honorer, entrer dans notre héritage, ben ça c'est une part très claire, cette reconnaissance. Parce que nous reconnaissons ce qui lui appartient, et si nous l'honorons, cela lui fait plaisir. Je crois qu'il est important de savoir en quoi nous croyons. On sait que nous croyons en Jésus, mais des fois ça peut s'arrêter là. Je reconnais ce que Dieu a fait. On sait qu'on est sauvé, mais en fait, on ne réalise pas l'héritage des saints de la lumière que dit le verset que nous avons lu, le verset 12. Alors osons, j'insiste et je l'insisterai encore, nous arrêter dans nos temps de méditation, par exemple, dans nos temps personnels, et nous rappeler, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine, Seigneur? Où est-ce que j'ai vu quelque chose de bon? Un des versets plus loin nous expliquera plus largement ça. La Bible nous dit des centaines de fois de remercier Dieu, de le louer, de le bénir, de se souvenir ce qu'il a fait. Il écrit, écrivez-le, pour ne pas oublier quand il les fait entrer dans la terre promise, il leur dit, mais écrivez-le, enseignez à vos enfants ces choses afin qu'ils ne les oublient pas, que l'on se rappelle de ce que Dieu a fait. Le psaume 40, les versets 5 ou 6 selon certaines traductions, tu as multiplié, éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Osons des fois peut-être même écrire ce que Dieu a fait. Si on ne sait plus, revenons dessus. Et le psaume 103, versets 1 et 2 que l'on connaît, de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. » Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Soyez toujours joyeux. Rappelez-vous ce que Dieu a fait et ce qu'il fait. On va lire la suite, ça va être un partage, un parcours des versets 12 à 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous avons reçu quelque chose qui va plus loin que le simplement fait d'être sur le pas de la porte du salut. Le verset 13, « Lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés où ? Dans le royaume du Fils de son amour ou dans le royaume de son bien-aimé en fonction des traductions. Il nous a délivrés, pas nous nous sommes délivrés, de la puissance des ténèbres. Quand les situations font mal, nous pouvons élever le nom de Jésus. Il nous a transportés dans le royaume de son amour, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Jésus est amour. Nous pouvons découvrir et goûter cet amour de Dieu qu'on ne peut pas mesurer. Le verset 14. En qui, donc Jésus, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Si tu es là aujourd'hui, encore une fois, si tu vois ton parcours et que tu as demandé pardon de tout ton être, il n'y a rien que l'Éternel se souvienne. Le pardon est absolu. Si de tout ton cœur tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné. Fais taire la voix qui t'accuse encore, malgré la demande de pardon que tu as donnée. Parce que Dieu te l'a dit, c'est effacé. Remercie-le pour son pardon. Il n'est pas de non-pardonnable dans nos vies. Il y en a un, mais c'est une autre question. Et pour qu'on y arrive, je crois que c'est comme le verset qui a été lu dans Hébreux ce matin. On connaît les bontés de Dieu, on connaît la volonté de Dieu, on connaît les choses, on y a goûté et puis on rejette Dieu. C'est une autre question et je ne vais pas faire de théologie là-dessus parce que je pourrais me planter encore. Mais si tu es là ce matin, que tu demandes pardon à Dieu, que tu aimes Dieu ou dans ton cheminement, que cette culpabilité s'écroule au nom de Jésus maintenant. Parce que Dieu t'a pleinement pardonné. Nous avons un héritage. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons accès à l'amour en Jésus. Et nous avons ce pardon qui est total, ne serait-ce que ça, que nos louanges puissent en sortir et en découler. Et remercier le Seigneur. Et nous avons cela grâce à Jésus. Le verset 15 nous dit, Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus s'est approché de nous, que nous l'ayons voulu ou non. Et comme nous l'avons reçu, il vit avec nous, en nous, et il nous conduit. Il est le témoignage de qui est Dieu. En Jean 14, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Tu crois en Jésus, tu marches avec Jésus, tu crois donc dans le Père et tu marches avec le Père. Philippe lui dit, mais Seigneur, alors montre-nous le Père. malgré ce que Jésus vient de dire. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Jésus est un témoignage absolu de l'amour éternel de notre Dieu. Et Jésus marche avec nous. Il est l'image, il est la relation, il est cette autorisation de comprendre le Père. Le verset 16, « Par en lui, en Jésus, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, pour lui. » Verset 17, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Et là, on revient sur mon travail. Qu'ai-je que je n'ai pas reçu ? Mes habits, mon salaire, ma maison, oui, ça découle de comment j'ai géré les choses. Alors les dons, les talents que Dieu m'a donnés, tout vient de Dieu. Et toutes ces choses subsistent en lui. C'est le témoignage de son amour, de sa grandeur, de sa vie. C'est pour ça que Paul, dans un autre passage, dit « Mais le monde a le témoignage de Dieu, mais il ne veut pas le voir, ne serait-ce que par la nature, ne serait-ce que par le souffle de vie, ne serait-ce que par ces choses. » Sur lesquels nous n'avons pas d'accès ou pas de pouvoir ou un pouvoir limité. Oups. Il n'y a rien qui ne soit pas sous son contrôle et c'est tellement immense. On réalise là, avec ces versets, que rien donc n'est impossible à Dieu. Osons revenir sur ce genre de passage que ça nous élargisse notre foi. Même le grain de sable, même la fourmi, même la cellule ou le flocon de neige, si petit que nous, on ne regarde même pas. Sont des merveilles dans lesquelles Dieu a mis son amour, sa créativité et sa vie. Il prend soin avec tout son amour et toute sa bonté de ces choses. Alors, n'a-t-il pas son regard sur moi, sur nous, plus grand encore que sur le flocon de neige ? Le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Quelque part, c'est assez fou, folie pour l'homme. Jésus est la tête de l'Église que nous représentons. Et puis on le voit déjà dans la Bible. Il y en a qui pensent d'une manière, d'autres d'une autre. Il y a des différences, il y a des goûts, il y a des tensions. Jésus dit, je suis la tête de ce corps. Apprenons à réaliser toujours plus combien il est la tête. Il a les idées, il a la dynamique de vie. Il conduit toute chose, il sait d'avance. Mon petit orteil bouge si ma tête lui dit bouge. Il y a un tout qui fonctionne dans une unité. Apprenons à découvrir ces choses. Il est la tête du corps de l'Église. Ça veut donc dire que les choses sont entre ses mains, que c'est lui qui conduit. Tout lui appartient. Osons lui faire confiance. Alors recherchons, nourrissons-nous de ce qui descend de la tête pour aller de l'avant. Il est le premier en tout, au commencement de toute chose. Son nom est bien « Je suis ». Quoi qu'il arrive, Dieu est. Il connaît, il sait donc l'avant, il sait le maintenant, il sait l'après. Il a donc une réponse pour ce qui s'est passé, pour l'actuel et pour ce qu'il vient. Même le premier à revenir par lui-même de la mort. Est-ce qu'un homme a déjà réussi à sortir de son cercueil tout seul ? Il est le premier qui a jailli. Parce qu'il veut être le premier dans absolument toute chose. Ce n'est pas par quelqu'un qu'il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Jésus est le premier en tout. Il n'y a donc rien que tu vives que Jésus ne connaît pas. Et comme un autre verset le dit, même un autre, il a été tenté en toute chose comme nous. Il n'y a rien que Jésus ne connaisse pas. Alors il saura nous répondre et nous accompagner. Remercions-le encore pour ça. Il est né parmi nous, pécheur, mais le premier sans péché, sans tache, ni ride. Dans la plénitude, on a vu dans le verset, pour être la plénitude en toute chose, et un autre mot pour plénitude, c'est le mot shalom, je vous l'avais une fois partagé aussi. Pleinement, en entier, parfaitement, abouti dans l'absolu, c'est dans cette entièreté. Et quand les choses sont dans leur ensemble, dans ce qui est complet, la paix est là. Quand un travail est abouti, quand une mission est arrivée à son terme, quand il y a eu les réponses à toute chose, quand un mandat est accompli, il y a joie, il y a paix. En Jésus, tout est accompli. Et il veut nous permettre de goûter à cette plénitude dans ce que nous vivons. Le verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. C'est dans un absolu, ça va au-delà de juste notre foi et notre salut. Il a voulu faire la paix avec la nature, il a voulu faire la paix avec l'univers entier, il a voulu faire la paix avec tout ce qu'il a créé qui s'est retrouvé dans le royaume de l'ennemi, parce que nous avons donné autorité à l'ennemi de nos âmes. Son désir, c'est cet absolu, c'est de nous conduire dans une plénitude. Son désir et son cœur est de nous remplir pleinement. Et si nous commençons de le réaliser, nous réaliserons même que dans ces temps que nous vivons, qu'ils soient difficiles ou joyeux, cette plénitude peut trouver sa place et va trouver sa place. On entend des témoignages de personnes qui ont vécu des horreurs dans leur vie et qui ont réussi à pardonner. Et ces gens ont tout d'un coup fini par trouver une plénitude. La paix et la joie sont revenus malgré les abominations qu'ils ont vécues. On en a un petit peu parlé pendant le week-end. Mais là-dedans, Dieu nous conduit dans la plénitude. Ça va plus loin que nos mots ou nos compréhensions. Cette paix est possible pour nous dans tout ce que nous sommes, dans notre santé, dans notre morale, dans notre parcours, dans notre travail, dans nos relations. Cette paix est possible. Jésus en a payé le prix du sang que nous allons nous rappeler tout à l'heure. Est-ce que nous voulons réaliser cela ou est-ce que nous disons non, ça c'est pas possible? Rappelons-nous donc ces merveilles et ces bontés de Dieu. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, quelque chose que j'aime bien quand je prends du temps avec le Seigneur, c'est m'arrêter, fermer les yeux et juste réaliser qu'il est là. Tu le sais, tu t'assieds, tu fermes les yeux, tu dis Seigneur, tu me dis que tu es présent. Et chez moi, quand je m'arrête comme ça, le sourire il monte tout seul au visage. Ayez un temps de paix, même dans les moments difficiles. Je vous encourage à le faire. Osons prendre du temps, ne serait-ce que s'arrêter pour contempler Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pense simplement qu'il est là si tu ne sais pas ce que veut dire contempler Dieu. Ose accepter. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit, donc tu es... Seigneur, tu es là. Waouh! Réfléchis pas trop. Mais tu seras surpris et tout d'un coup tu ressens ne serait-ce qu'un souffle de joie ou un apaisement. Dieu est là. Et ensuite, bénis-le pour pareille grâce. Il veut nous faire goûter à cette plénitude. Il veut nous conduire à l'aboutissement. Cette paix est possible pour nous. Nous devons y croire. Les versets 21, « Et vous, nous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, ou par exemple, je mets une parenthèse, qui n'avons pas compris certaines de ces choses, là où nous en sommes dans notre parcours, par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, maintenant, il vous a réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. » Ça veut donc dire encore une fois, par rapport à la question du pardon avant, c'est Dieu qui a fait, et c'est lui qui tend la main, et c'est lui qui réconcilie et qui veut nous reprendre auprès de son cœur. C'est lui qui a payé le prix. Tu n'as pas besoin de faire 45 jours de jeûne pour demander pardon. Tu n'as pas besoin d'aller te fouetter, te mortifier, ou bien de te privé de quelque chose. Vis, et quand tu as demandé pardon, reçois cette paix, cet amour de Dieu. Parce que il s'est donné, il a payé le prix pour chacun de nous. La question peut se poser, mais pourquoi tu l'as fait? Le verset 22, je vais le paragrapher, il dit, pour vous faire paraître devant lui. Dieu, Jésus, n'a qu'une chose, c'est que vous paraissiez, que nous paraissions devant lui, que nous soyons devant lui. B, il veut nous faire paraître devant lui comme étant saints, comme étant à part, comme étant pas comme nous l'imaginons, pour étant différents, parce que lui nous voit saints. Avec le pardon, il nous voit sans tache ni ride. Quand on a repêché, redemandons pardon et acceptons ce regard tellement extraordinaire de la part de Dieu, ce voile déchiré. Il l'a fait pour que nous paraissions devant lui comme étant saints. D'accord, je vais à la croix, ils ont péché, mais je les verrai saints s'ils me demandent pardon. Ils me demandent pardon, je les vois saints. Ils recommencent. Comment ça, ils recommencent? Pourquoi il n'arrête pas de me dire, Seigneur, je suis retombé? Là, je vois qu'il a chuté, alors le juste se relève. Relève-toi. Dieu te voit saint, parce qu'il a payé le prix. c'est pour vous faire paraître devant lui comme étant irrépréhensible. Zut, je ne peux pas lui faire de reproche, il va bien. Il fonctionne bien. Quand on est devant la présence de Dieu, quand on reconnaît Jésus comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, quand on en est conscient du sang de la croix et de son corps déchiré, Dieu nous voit absolument parfaits. Mais si on en prend conscience, on va le vivre d'une autre manière et on va entrer dans cet héritage plus fortement. Et puis, dès pour nous faire paraître devant lui comme étant sans reproche. Donc c'est fou, vous dites, c'est la même chose. Et puis pourtant, lui, il insiste, sans reproche, irrépréhensible, saint. Et nous, on a à faire quoi ? Reconnaître, accepter, désirer l'honorer, le remercier, prendre conscience, veiller à notre cheminement. Et là, vous voyez la suite de ce que nous avons vu la semaine passée. Que nos cœurs soient dans la joie et nous aurons la motivation pour marcher d'une manière digne du Seigneur et pour l'honorer en toutes choses. La sagesse de Dieu, c'est fou. Mais ce regard-là nous est incompréhensible, illimité, parce que nous, on voit trop bien ce qui ne va pas. Et là, il nous interpelle dans cet épître aux Versoisiens. J'ai tout fait, t'as vu ? C'est pour toi. Mais libre à toi si tu n'en veux pas. Mais moi, c'est le cadeau que je te donne. Et quand tu vas entrer dedans, tu vas voir que ce cadeau, il est plus large que ce que tu vois. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps ces films de parodie. On entre dans une petite caravane au bord de la plage et quand on a ouvert la porte, on se retrouve devant un immense palais. Vous n'avez jamais vu ce genre de choses ? Des fois dans les parodies, ce qui est petit paraît tout d'un coup immense et démesuré. C'est ça avec Dieu. C'est le premier pas et dans ce premier pas, tout d'un coup, il y a cette ouverture. Il y a ce cadeau absolu que Dieu veut nous offrir et nous permettre de découvrir encore plus grand. Notre intelligence est bien limitée. C'est pour ça que la semaine passée, je disais, mais comprenons l'intelligence de Dieu. La connaissance spirituelle, ce que Paul enseignait dans le passage précédent. Le verset 23, Paul l'explique. « Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. » Mais quand on découvre et qu'on vit ces choses, on n'a plus envie de se détourner. On a envie, quand on y goûte, avec nos hauts et nos bas, on a envie d'y revenir. Alors osons nous rappeler toutes ces choses, osons dire merci, osons réaliser ce que Dieu fait, osons revenir sur ces versets qui nous encouragent. Et osons lui redresser notre louange et notre adoration. Et nous recevons ce package. Donc ce que nous avons vu la semaine passée est possible. Marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est possible. On le voit là. Marcher d'une manière qui l'honore pleinement, c'est tout à fait possible. Avec nos hauts, avec nos bas. Mais prenons-en conscience. Réjouissons-nous, même dans les temps de silence. Parce que Dieu l'a dit, parce qu'il a payé le prix. Alors ne restons pas indifférents. Osons peut-être, avec le peu de force que nous avons, peut-être un jour où tout va bien, comme je disais avant, « Père, Seigneur, tu es là. » Ne serait-ce que ça. Et là, tout d'un coup, vous verrez comment on peut être conduit les choses. Et si le lendemain, c'est plus difficile, ok, osons peut-être nous arrêter sur « Aujourd'hui, j'ai passé une journée meilleure qu'hier. » Merci Seigneur. Ces petites choses, parce que tout est entre ses mains, nous l'avons lu. Une espérance que cette bonne nouvelle devienne pratique. Souvenons-nous de cette notion d'espérance. Je crois que c'était dans un week-end d'église qu'on avait parlé de l'espérance. Rappelons-nous ce que c'est que l'espérance. Osons méditer sur ces choses-là. Petit tour dans Jacques, verset 1, les versets 22 et 25 disent « Mettez en pratique la parole ». Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais le verset 25 dit, « Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, cette loi de liberté, et qui aura persévéré. » Ça veut donc dire que si on persévère, c'est que ce n'est pas forcément tout rose. Sinon, on ne se poserait pas la question de persévérer. « N'étant pas un auditeur oublieux se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Là, Jacques est autre... Enfin, dans l'épître de Jacques, c'est... C'est une citation d'une promesse de Dieu à Israël dans Deutéronome 28, la bénédiction qui coule de l'obéissance à Dieu. Le psaume 1 nous dit aussi cela. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Le verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Alors il est comme un arbre planté, le verset 3, tel un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc on voit que dans la compréhension, dans le fait de dire merci à Dieu, de le louer, de lui rendre gloire, de marcher dans l'enseignement, dans ce qu'il nous apprend, il y a la bénédiction qui coule, il y a l'héritage de son royaume qui vient, il y a l'espérance qu'il revient, ces choses grandissent. Revenons à Colossiens, le verset 26, « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à nous, à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître, Dieu a voulu te faire connaître à toi aujourd'hui, quelle est sa glorieuse richesse par rapport à ce mystère. Il a voulu le montrer pour que nous ne marchions pas parmi les, comme les païens qui ne comprennent pas ces choses, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire, Jésus en nous que nous honorons, pour lequel nous marchons d'une manière digne, parce qu'il nous a tout donné, nous donne une espérance illimitée et une joie profonde. Et ça va marquer le monde extérieur. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Parce que l'héritage de cette espérance, c'est que Dieu te voit comme étant parfait, son fils, sa fille, bien-aimée. Jésus est cette espérance. Est-ce que Jésus est ton espérance? Est-ce que je lui laisse la place dans ma vie? Quel est mon choix? Qu'est-ce que je crois? Je crois en ces choses, alors oui, je le veux. Je crois en ces choses, alors oui, je veux me réjouir de ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Peut-être même si c'est la millième fois que je le remercie, si c'est tout ce que j'ai, eh bien que je le remercie encore. Et peut-être aussi je peux le témoigner. Comme tu as partagé ce témoignage tout à l'heure, j'ai vu ces jeunes, c'est une réjouissance qui a été semée dans leur cœur. Là, il y en a qui marchent toujours avec Dieu, par exemple. Mais quelle joie! C'est un sujet de joie. Pensons-y, tout le temps. Il y a un mot que j'aime bien, c'est « remercier ». Il y a la première partie du mot, c'est moi qui l'ai souligné en rouge, c'est « re ». Encore. Mercier, je ne crois pas que ça existe, je ne suis pas doué en français. Mais remercier, alors dites merci encore et encore. Remercions solo dans la chambre, certes, dans le temps personnel, dans le secret avec Dieu, mais remercions ensemble pendant les temps de louange. Remercions et louons notre Dieu. Redonnons-lui nos vies, nos circonstances. Témoignons de ce qu'il a fait autour de nous. Je me rappelle à Corgémont, un homme est venu vers nous, vers ma femme et moi, puis il a dit, mais c'est quoi qui vous tient debout? Je vois ce que vous avez, mais quand je vous vois vivre, quand je vois les projets que vous avez ou les choses, qu'est-ce qu'il y a qui... Vous tenez à quoi? On lui parle de Dieu, il a fait, ah, c'est votre béquille. Il s'est arrêté là, mais il a été marqué. Témoignons de ces choses autour de nous. Dieu est vivant, n'est-ce pas? Ne nous taisons pas. Témoignons de ce qu'il a fait. Des fois, on entre dans des doctrines avec des gens qui pensent autrement. Arrêtons, peut-être l'on n'y arrivera pas. Hein. Parlons de ce que Dieu a fait dans nos vies. Ça, personne ne peut nous l'enlever. Et ça, c'est un témoignage extraordinaire. Pendant la Sainte Cène, cet acte de remerciement, de reconnaissance, réalisons non seulement son œuvre à la croix, le réaliser, mais également ce qu'est l'Église, ce corps duquel il a accepté d'être la tête. Son corps qu'il a brisé pour que nous soyons ce corps avec lui. Réalisons les merveilles de son amour, de cet héritage des saints, et louons-le sans cesse. Rendez grâce. Pendant ce temps de Sainte Cène que Jean va conduire, j'aimerais juste nous encourager à deux choses. Prier pour remercier Dieu et lui rendre grâce. N'osons pas attendre que le culte soit fini puis d'être dans nos temps personnels à la maison pour le remercier, ou dans notre voiture, seul, en louant Dieu. C'est vrai, Seigneur. Mais déjà maintenant, prenons le temps de le remercier d'eux, si quelqu'un a peut-être un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie ou était en train de faire. Mais viens le partager. Alors prenons ce temps pour commencer de vivre le verset du départ de ce à Colossiens, ce verset 12. Rendez grâce avec joie. Amen.